Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, nouvelle édition de l'heure du crime, et avec bien entendu toute l'équipe qui m'aide chaque jour à préparer ces émissions, Justine Vigneault, Laure Broulard et Alexandre Cagzan qui est à la technique de l'heure du crime. À la une, vous l'avez entendu, c'est l'affaire Omar Radad. Bon, Omar m'a tué, c'est une expression qui a véritablement frappé très profondément toute l'opinion en France. L'aspect étrange de ce crime, avec un côté, comme je le disais tout à l'heure, mystère de la chambre jaune, une femme assassinée, enfermée, porte fermée à clé, mais aussi toute une série d'objets pour barricader la porte, et puis cette inscription sur une porte écrite avec le sang même de la victime, Omar m'a tué. Omar, tout le monde s'en souvient, était employé comme jardinier par Madame Ghislaine Marshall, et malgré une enquête qui a été très très controversée, des expertises également très controversées, des avocats qui sont battus comme des chiens avant Maître Vergès, et évidemment on peut pas ne pas évoquer le souvenir de Jacques Vergès quand on parle de cette affaire. Un homme qui est à côté de moi, écrivain, journaliste, Jean-Marie Rouard de l'Académie française, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de revenir, parce que faut que je vous explique pourquoi on reparle là aujourd'hui de l'affaire Omar Radad dans l'heure du crime sur RTL. C'est parce que d'abord, il y a eu dimanche 5 octobre, donc c'est tout récent, le film Omar m'a tué a été rediffusé sur France 2, a été diffusé sur France 2. Donc on a eu beaucoup d'auditeurs qui nous ont demandé de revenir sur l'affaire par l'intermédiaire de RTL.fr. Vous savez que vous pouvez toujours nous contacter à la page de l'heure du crime pour nous dire qu'une affaire vous a particulièrement frappé et nous demander de l'évoquer. Et puis il y a une autre raison que vous allez peut-être découvrir avec beaucoup de ceux qui nous écoutent, Jean-Marie Rouard, c'est que je disais tout à l'heure, il y a du nouveau. Depuis le 1er octobre, il y a une nouvelle loi sur la réforme des condamnations pénales qui est entrée en vigueur, et maître Sylvie Novakovic, qui est l'actuelle avocate d'Omar Radad, a écrit immédiatement, elle va nous l'expliquer dans un instant, au procureur général de Grasse pour demander de nouvelles analyses ADN. Alors, on va entrer dans le détail avec elle dans un tout petit instant. Mais d'abord, première question, Jean-Marie Rouard. D'abord, il y a ce livre, évidemment, que vous avez écrit aux éditions de Fallois à l'époque, Omar, la construction d'un coupable, qui vous a valu bien des soucis. Vous évoquez Jacques Vergès par un portrait dans votre tout dernier ouvrage qui vient de paraître chez Gallimard. J'ai envie de savoir, comme ça, vous n'avez jamais évolué. Maintenant, en 2014, 20 ans après, vous êtes toujours persuadé qu'il y a eu erreur judiciaire.
Bien sûr. Bien sûr, j'ai jamais évolué. J'ai toujours considéré qu'il était innocent, que c'était une histoire invraisemblable, qui ne tenait pas debout. Mais vous savez, si j'ai consacré autant de temps à cette affaire, et autant d'ennuis, parce que ça m'a valu pas mal d'ennuis collatéraux, y compris mon exclusion du Figaro littéraire, c'est vraiment parce que j'y croyais, parce que sinon, quel aurait été mon intérêt pour m'engager dans cette affaire. Non, j'y crois profondément, et toutes les invraisemblances que j'ai soulevées dans mon livre, étrangement, elles demeurent, et y compris cette chose invraisemblable, qu'on ne relève pas assez, à mon avis, c'est qu'il est condamné à 18 ans de prison avec les circonstances atténuantes. Moi, j'ai vu les photos du cadavre. Quand on voit avec quelle minutie Madame Marshall a été torturée, parce qu'elle a été torturée, on n'a pas voulu la tuer d'un coup de couteau pour l'égorger. Non, elle a été torturée, on lui a fait
piqué son corps avec l'arme du crime qu'on n'a jamais retrouvée, d'ailleurs.
Il y a une trentaine de coups de... On sent bien qu'on a voulu lui faire des boutonnières dans le corps. Et donc, ces circonstances atténuantes, qu'est-ce que ça veut dire? C'était la perpétuité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu un débat, et ça on n'a pas assez soulevé, qu'il y a eu un débat à l'intérieur du tribunal où les jurés n'étaient pas d'accord pour condamner Omar.
Oui, oui, parce que quand je disais tout à l'heure qu'il y a une affaire qui a divisé l'opinion, en fait, non, l'opinion va dans le sens d'une erreur judiciaire, mais il y a eu ces affrontements et cette division au tribunal. Hein,
oui. À l'époque, il y avait eu un sondage qui avait été publié dans l'événement du jeudi, où 69% des Français considéraient que Omar était innocent. Refaites ce sondage aujourd'hui, vous verrez, on atteindra. Non, il y a une opposition entre le système judiciaire et l'opinion. Mais il y a un abîme entre les deux, parce que pour l'opinion, c'est évident qu'il y a eu une manipulation, parce que on n'expliquera jamais à l'opinion, et on ne m'expliquera pas non plus pourquoi est-ce qu'il a fallu utiliser des gens aussi éminents qu'Henri Weber, président de la Ligue des droits de l'homme, comme partie civile.
Henri Leclerc, oui.
Henri Leclerc, pardon. Et ensuite, quelqu'un comme Tiegman, qui était ancien ministre de la Justice, pour écraser une mouche Omar Haddad.
Alors, on ne va pas ni refaire le procès, ni ouvrir le débat, mais on aura Maître Henri Leclerc en direct tout à l'heure, à la fin de cette émission, dans le dernier quart d'heure de l'émission. Avant cela, on va rappeler, puisque c'est ce que nous demandent les auditeurs, les grands moments de l'affaire, les rebondissements, les questions qui sont posées, les polémiques. On va essayer d'expliquer quelles étaient les sources, quelles étaient les sources de ces polémiques. Mais d'abord, je reviens à l'actualité avant la première pause. Et on tout de suite avec Maître Sylvie Novakovic. Bonjour, Maître.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Alors, vous nous expliquez ce qui se passe de nouveau dans le dossier, parce que j'ai dit très rapidement qu'une nouvelle loi sur la réforme des condamnations pénales était entrée en vigueur. Et d'ailleurs, je crois que vous n'êtes pas étrangère avec quelques autres au fait que cette loi soit promulguée.
Tout à fait.
Et vous avez tout de suite écrit au procureur général de Grasse. Expliquez-nous.
Oui. Alors tout à fait, que pour avoir effectivement participé à cette loi, il est clair que j'ai profité effectivement de la mise en vigueur de la loi du 21 juin 2014, qui est donc la mise en vigueur au 1er octobre, comme vous l'avez très bien dit, pour écrire au procureur de la République, car désormais on peut faire des demandes d'actes préalables à toute saisine de la commission, enfin non, de la cour de révision.
Oui, parce que les révisions jusqu'à présent...
Demande d'actes, c'est le prélèvement de matière supplémentaire, car on sait très bien également que j'ai saisi le garde des Sceaux à deux reprises, assez récemment, et on a fait droit à ma demande de comparaison des ADN, donc au FNAG, qui ont été retrouvés mélangés au sang de la victime.
Oui, alors le FNAG, c'est le fichier automatisé
automatique des empreintes génétiques.
Voilà, dans lequel on peut mettre une empreinte génétique exprimée sur une scène de crime et la comparer pour voir d'abord si le propriétaire, si j'ose dire, de cette empreinte génétique n'est pas déjà fiché. Hein,
voilà. Exactement, sachant que dans le mémoire, d'ailleurs visé par mon confrère Jacques Vergès, il s'avère qu'on visait des personnes qui avaient effectivement leur ADN inscrit au fichier national automatique des empreintes génétiques.
D'accord.
Donc, on a fait droit à ma demande, le garde des Sceaux a fait droit à ma demande, mais la difficulté, c'est qu'il n'y avait pas assez de matière. Donc, ils m'ont dit dans ces conditions, allez faire cette demande auprès du procureur de la République.
Ouais.
Sauf que je me suis opposée à un refus de la part du procureur.
Oui. Et attendez, on a un petit souci de liaison.
Oui,
vous êtes là
vois.
Toujours. Allez-y, allez-y.
Donc vous m'entendez là ?
Oui, oui, ça y est, c'est bon.
Bien, excusez-moi. Donc le procureur de la République n'a pas fait droit à ma demande dans un premier temps, et grâce à cette promulgation, eh bien désormais, c'est possible.
D'accord. Et donc, évidemment, vous tenez compte, Sylvie Novakovic, de l'avancée de la science, hein, les avancées de la science concernant l'ADN. On a beaucoup parlé ces dernières semaines.
Exactement. Non seulement une avancée de la science, mais surtout on peut désormais reprélever de la matière grâce à ce progrès de la science. Mmh. Donc en prélevant cette matière, eh bien effectivement on va pouvoir enfin voir qui était l'auteur de ce crime. C'est extrêmement important.
Très bien. Alors, on va vous retrouver dans une quinzaine de minutes hein, sur l'antenne. On prendra le temps pour que vous nous expliquiez quels sont, à votre avis, les points sur lesquels, une demande de révision était acceptée, il faudrait revenir. Et puis, vous nous parlerez aussi d'Omar Haddad, puisque je crois qu'il vit actuellement entre le Maroc et Toulon, mais qu'il est, d'après mes informations, très déprimé. Et qu'en fait, il ne vit que pour sa réhabilitation éventuelle.
Hein. Que pour cela.
Alors, on se retrouve tout à l'heure, Maître.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous sommes le lundi 24 juin 1991. Vers 19h, ce jour-là, les gendarmes, alertés par des voisins inquiets, découvre le corps inanimé de Ghislaine Marchal dans le sous-sol de sa villa sur les hauteurs de Mougins, sur la Côte d'Azur. Cette femme, qui est la riche veuve d'un équipementier automobile très connu, est retrouvée littéralement massacrée sur une scène de crime hors du commun. En effet, la victime, avant de décéder, a, semble-t-il, trouvé la force d'inscrire sur une porte, avec son propre sang, le nom de l'assassin. Sur RTL, dès le lendemain matin, notre correspondant dans la région, André Lucchesi, fait l'ouverture du journal de 5h30 avec cet étrange récit.
À l'heure du déjeuner, cette richissime rentière de 65 ans était encore en vie. Deux de ses amis l'avaient jointe au téléphone. Ce crime au mobile très mystérieux, rien ne semble avoir été dérobé, a donc été commis en début d'après-midi par quelqu'un qui est parvenu à débrancher l'alarme. Mais avant de mourir, la vieille dame semble avoir réussi à désigner son assassin. Avec son propre sang, elle a inscrit avec un doigt sur un mur « C'est Omar qui m'a tué ». Omar, c'est un jardinier marocain qui est venu travailler trois fois chez la victime, mais qui se trouvait apparemment à Toulon auprès de sa femme en train d'accoucher au moment du drame. Alors s'agit-il d'une mise en scène destinée à faire accuser cet homme aujourd'hui placé en garde à vue ? Mystère.
Le lendemain, Omar Radal, 29 ans, le jardinier marocain donc de Madame Marchal, est arrêté à Toulon, où il participe en famille à la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir. Trois jours plus tard, il est mis en examen pour homicide volontaire et il est écroué à la prison de Grasse. Le 27 juillet, trois médecins légistes datent la mort de la victime dans la journée du lundi 25 juin, 6 heures, disent-ils, avant l'examen du corps. Or, ce jour-là, Omar a un alibi parfaitement vérifiable. Il était à Toulon, en famille. Mais, 6 mois plus tard, les mêmes experts signalent au juge d'instruction qu'une faute de frappe s'est glissée dans leur rapport et qu'il fallait lire le 23 juin et non le 24. Or, le dimanche, Omar Radad n'a pas d'alibi à l'heure supposée du crime et autre élément à charge, des expertises graphologiques vont bientôt indiquer que les mots « Omar m'a tué » ont bien été écrits par la victime avec son propre sang. Ces expertises seront vivement contestées par la défense pendant le procès qui s'ouvre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice le 4 janvier 1994. Tout semble accuser le jeune Marocain, mais cette affaire est entachée par de nombreuses erreurs dans l'enquête, selon Maître Jacques Vergès, l'avocat de l'accusé, qui pointe, vous allez l'entendre, les nombreuses faiblesses du dossier. Il considère que toutes les pistes n'ont pas été suivies.
Cette instruction, dès le départ, souffre d'une faiblesse essentielle. On n'a pas cherché dans l'entourage de la victime un auteur possible. On s'est fié uniquement à cette inscription « Omar m'a tué », avec ER d'ailleurs, pour tout de suite tout concentrer sur le jardinier. Or, la preuve, à notre avis, et nous le démontrerons, n'est pas faite que l'écriture est de la mort.
Maître Jacques Vergès, donc au micro de Jean-Claude Larivoire, c'était le 24 janvier 1994, dans le journal de Jacques Esnoux. Dans la soirée du 2 février 1994, Omar Radad est reconnu coupable du meurtre de Madame Marchal. Après près de 7 heures de délibération du jury, il est condamné, comme on le rappelait tout à l'heure avec Jean-Marie Rouard, à 18 ans de réclusion criminelle. Jean-Claude Larivoire, document RTL, annonce le verdict dans le flash de minuit.
Culpabilité indiscutable, mais circonstances atténuantes, voilà la signification de ce verdict qui entre exactement dans la fourchette de ce qu'avait requis le ministère public. Aucun des arguments de la défense n'a été retenu par les jurés. Maître Vergès avait pourtant déployé toute la vigueur et l'ingéniosité dont il est capable pour introduire le doute dans l'esprit des 5 femmes et 4 hommes qui constituent le jury. Celui-ci a préféré retenir la supplique de la famille de Madame Marchal, représentée par Maître Henri Leclerc, les lettres de sang indiquant à ceux qui lui survivraient le nom de l'assassin, l'ultime message d'une femme au courage admirable qui n'entendait pas que son meurtre reste impuni. Machination, a plaidé Maître Vergès, mise en scène par une accusation diabolique faisant porter des soupçons sur un pauvre bougre de jardinier. Ayez le courage de dire non à l'accusation, l'avocat n'a pas été entendu. Encore moins Omar Radad, qui à l'issue de l'ultime plaidoirie avait enfin, mais peut-être un peu trop tard, accepté de parler en français. Ça n'est pas moi qui ai tué Madame Marshall.
Immédiatement après ce rappel du verdict, Jean-Claude Larivoire diffuse dans ce journal la première réaction du défenseur donc d'Omar Haddad, maître Jacques Vergès.
Je ne peux pas ne pas être indigné quand je vois au terme de 8 jours de débat l'innocence d'un accusé prouvé et voir cet accusé condamné à une peine de 18 années. Je ne peux pas ne pas m'être indigné. Mais je pense en même temps que l'affaire est tellement grave que l'affaire ne peut pas s'arrêter là. Sur le plan de la procédure, nous ferons un pourvoi en cassation demain. Mais la procédure de cassation est une procédure secrète. Cette affaire n'intéresse pas seulement les juristes, elle intéresse tout le peuple de France. Voilà. C'est l'honneur des Français, de toute la France, qui est en cause. Et nous nous adressons à toute la France pour mener ce combat, comme d'autres en leur temps ont mené le combat pour l'officier juif qui s'appelait Dreyfus. Et dans cette affaire, nous constatons une chose aujourd'hui, c'est que les associations qui ont fait de l'amitié entre les peuples et de la lutte contre le racisme, leur fonds de commerce, n'étaient pas là. Donc, à mon avis, il n'y a pas d'échappatoire. La défense a joué son rôle. Omar Haddad a joué son rôle. Les magistrats ont joué un rôle qui m'étonne.
Voilà, donc pour ce rappel à grands traits, évidemment, de tous les incidents qui ont pu émailler l'instruction et le procès. Dans un instant, on retrouve Jean-Marie Rouard. Je voudrais juste dire un mot sur les archives RTL. Vous avez entendu, à l'instant, c'était donc Jean-Claude Larivoire qui interviewait Maître Vergès. Et puis on a passé les papiers, comme nous disons, de celui qui était le correspondant d'RTL à l'époque dans la région, André Lucchesi. Et André Lucchesi est décédé au début de ce mois d'octobre. Voilà, et on ne peut pas ne pas avoir évidemment une pensée pour lui et pour sa famille dans cette émission.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'affaire Omar Haddad à la une de notre émission à cause de cette actualité dont on va reparler dans quelques minutes avec maître Sylvie Novakovic. Peut-être la porte ouverte sur une nouvelle demande de révision, mais d'abord avec Jean-Marie Rouard qui à l'époque avait écrit ce livre Omar, la construction d'un coupable aux éditions de Fallois. D'abord revenir, Jean-Marie Rouard, sur ces controverses et la source de ces controverses quand même justifiée pour vous bien sûr qui ont émaillé en fait l'enquête et le procès. Je crois que ce qui vous a le plus stupéfait, parce que il faut dire que vous n'avez pas fait ce livre et cette enquête parce que vous êtes un fan des affaires criminelles, hein.
Non.
C'est juste l'intellectuel, l'écrivain, le romancier, mais qui s'est plongé là-dedans.
Ce qui m'a intéressé, c'était la justice et la France. Parce que la France, c'est quand même le pays de la justice. Et subitement, au su et au vu de tout le monde, on commettait une erreur judiciaire. Donc j'ai dit, c'est insupportable.
Ouais. Alors, la première controverse, elle a tourné beaucoup à la fois autour de l'autopsie, qui a été très controversée, et autour d'une décision du juge d'instruction de l'époque d'accepter qu'on incinère le corps de la victime avant même d'avoir les résultats de l'autopsie. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait des manques.
Je dirais toutes les expertises. Vous savez, les experts, ça sera encore un dossier à ouvrir. Les experts sont très dépendants des juges. Et ils sont allés dans le sens que voulaient les juges, l'instruction.
Cette histoire de faute d'orthographe sur l'heure de la mort, par exemple.
Ouais, bien sûr, sur l'horaire de la mort, qui a été très controversée. Bien entendu, on a adapté finalement l'heure de la mort, les conclusions de l'autopsie, au jour où Omar pouvait être le coupable.
Oui. Si c'était le lundi, il n'était pas là, il avait un alibi. Si c'était le dimanche,
non,
il travaillait.
Ça serait comique si ce n'était pas tragique. Mmh. Mais vous voyez, toutes les expertises, l'expertise graphologique, elle est absurde. Mmh. Il est évident que si vous aviez vu, comme moi, les photos du cadavre que m'a montré maître Vergès, eh bien ces photos où vous voyez la malheureuse qui a 2 traumatismes crâniens, le foie perforé, vraiment le corps transpercé à nombreuses reprises, ne pouvait pas...
Une phalange coupée.
Une phalange coupée n'avait pas la force de se déplacer pour inscrire à 2 reprises, à 20 mètres de distance, ces phrases.
C'est 6 mètres, en fait.
6 mètres, mais enfin bon.
Non,
6 mètres.
Pardonnez-moi.
Vous avez raison.
Je redonne les.
6 mètres de distance.
De toute façon, tout à l'heure, on aura maître Henri Leclerc qui va nous dire que c'est parfaitement cohérent avec la réalité.
Hein, elle n'avait pas la force d'inscrire cette inscription. Et aurait-elle eu la force? La faisabilité est impossible. Essayez vous-même, dans votre salle de bain, d'inscrire sans lumière. Et je rajoute que la pièce était fermée de à clé de l'extérieur. Donc c'est le criminel en partant qui a, bien entendu, fermé la porte derrière lui, même s'il y avait un simulacre de fermeture de porte.
Alors c'est quoi ce simulacre?
Eh bien, on avait installé un chevron de bois pour essayer de bloquer la porte, pour donner l'illusion que c'était Madame Marshall qui s'était enfermée et que pour se protéger contre son assassin. Mais comme il avait fermé la porte derrière lui, je ne vois pas un assassin, mais c'est simplement du bon sens, un assassin laissant une femme à demi morte qui pouvait survivre et l'accuser.
Ouais, pensez qu'il aurait terminé le travail.
Et puis en plus,
mais alors pourquoi cette accusation? Comment vous l'expliquez, vous, l'idée? Donc pour vous, c'est l'assassin qui a pris la main ou pas de Madame Marshall, ou simplement qui a trempé son doigt ganté, parce qu'on n'a pas retrouvé d'empreinte là, dans le sang, pour écrire Omar m'a tué. Pourquoi Omar? Pourquoi désigner?
Bien sûr, parce que c'était le plus facile. Vous désignez un proche de Madame Marshall, qui en plus était maghrébin, ce qui, dans le contexte de, disons, du Midi, est plus facile, parce que puis c'est quelqu'un qui était désarmé. Pourquoi est-ce que je me suis finalement occupé de cette affaire? C'est parce que c'était un homme qui était complètement démuni, désarmé, à moitié analphabète, et donc je me suis dit, c'est quelqu'un qui faut aider. Voilà. Donc c'était vraiment une proie facile, et c'était une manipulation complètement machiavélique.
Quel mobile, à votre avis, alors?
C'est l'argent, vous savez. Parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est encore une piste qu'on n'a pas recherchée, Madame Marshall avait beaucoup d'argent en Suisse.
Ah oui, c'est pas les 5000 francs du sac à main.
Non, c'est pas les 5000 francs du sac à main, il y avait beaucoup d'argent en Suisse. Et d'ailleurs, les tortures qui ont été exercées sur son corps prouverait qu'on a voulu la faire parler. Enfin, moi j'en sais rien, vous savez, moi je suis pas...
En tout cas, ça aurait été une piste à suivre, vous regrettez qu'elle n'ait pas été suivie, d'accord.
Sans compter qu'on a pu révéler qu'elle avait été initiée au Temple solaire, vous savez, dans la secte du Temple solaire. Ouais. Donc, il y avait une multitude de pistes. Et d'ailleurs, vous savez, c'est pas un hasard. S'il y a eu 8 livres qui ont été écrits sur ce sujet, indépendamment du mien, qui était d'ailleurs...
Dans ces livres, il y a celui de Guy Hunier, je le cite.
Bien sûr.
Il n'a pas souhaité participer à l'émission, non. Qui a écrit un bouquin dont le titre est Omar Radal, le vrai coupable.
Oui, bon. Et il y a d'ailleurs une tentative de la famille pour faire écrire un livre aux éditions Albin Michel. Pour, d'ailleurs, on se demande pourquoi. Pourquoi faire écrire un livre pour dire qu'Omar était vraiment coupable, sinon pour répondre à mon livre.
Pourquoi cette coalition à ce moment-là contre Omar Radal?
Écoutez, je me pose la question. Je me suis toujours posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi? Moi, vous savez, j'ai agi avec un certain bon sens. Je suis un peu un intellectuel, mais je suis quand même quelqu'un de bon sens. Je m'efforce de garder du bon sens. Je me dis, mais pourquoi? Ma mère aurait été assassinée. J'aurais essayé de chercher toutes les pistes, et pas seulement la piste énorme qu'on mettait devant moi, qui me paraissait un peu trop grosse. Et je n'ai pas compris pourquoi, finalement, la famille s'est acharnée sur et a employé, je vous dis, de moyens tellement excessifs. Comme des gens très éminents, comme Henri Leclerc, président de la Ligue des droits de l'homme,
ou Maître Kiechmann.
J'ai trouvé que c'était beaucoup. Ouais. C'était beaucoup. Et disons, il n'y a pas eu ce... J'ai pas compris pourquoi non plus cette famille s'est opposée à la révision. Vous voyez? Parce que cette révision, qui est un second procès, pourquoi est-ce qu'on serait en déphasage complet avec toute l'opinion française? Pourquoi est-ce que la Cour de cassation accepte? C'est très malsain. Oui. C'est malsain.
La Cour de révision était très claire, en répondant à une première demande de Jacques Vergès, en disant il n'y a pas d'éléments de nature à créer le doute sur la culpabilité de Mars. C'est une deuxième condamnation.
Bien sûr, mais moi j'avais saisi à la fois Jacques Chirac, le président de la République, et Nicolas Sarkozy, parce qu'ils ont le pouvoir, dans l'intérêt de la loi, de demander une révision à la Cour de cassation. Et là, ça se justifiait. Vous ne pouvez pas laisser l'opinion dans le doute quand une affaire a été aussi médiatisée et de se dire et que l'opinion manifeste ses soupçons.
Alors, on va faire une pause. On va prendre tout de suite après Maître Sylvie Novakovic. On va revenir là, en quelque sorte, au dossier. D'ailleurs, vous parliez de ce deuxième procès qui aurait été un procès en révision. Il faut dire que on est en 94 et le procès en 96, si je ne m'abuse. Et on est à quelques années, en fait, d'une loi qui peut-être s'est inspirée de cette affaire pour que les cours d'assises... qu'il y ait deux jugements en cours d'assises, le premier jugement et l'appel. On en reparle dans un instant avec Maître Novakovic.
L'heure du crime sur RTL.
Je voudrais juste rectifier une petite erreur. On en parlait avec Jean-Marie Rouard. Le crime, c'est 1991. Le procès, c'est 1994. Et quand je disais qu'il a fallu attendre 6 mois pour que les médecins reviennent sur cette fameuse histoire de faute de frappe, en disant mais il fallait lire la veille, c'est une secrétaire qui s'est trompée, c'est 4 jours après, hein, vous me dites. Alors, avant de prendre Maître Sylvie Novakovic, je voudrais qu'on entende un dernier document RTL. On est le 20 novembre 2002. Ce jour-là, la Cour de révision rejette le pourvoi d'Omar Haddad. La Cour, j'y faisais allusion il y a un instant, considère qu'il n'y a pas dans cette demande, il n'y a aucun élément nouveau de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité, pour reprendre leur expression. Et à l'annonce de cette décision, bien sûr, Omar Haddad est effondré. Et vous allez l'entendre, il réagit ce jour-là au micro de Jean-Benoît Vion sur RTL.
Moi, s'il m'a laissé dehors au mégard à présent, pour moi, ça ne change rien. Je le dis déjà, ça fait 4 ans, et je le dis encore aujourd'hui, dans ma tête, dans mon sentiment, je ne suis pas libre. La liberté, c'est la vérité. Qu'est-ce que ça fait dire la vérité? C'est qui s'il a fait ça? Et pourquoi il a fait ça? Mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait une justice. Pour moi, aujourd'hui, c'était une injustice. Je continue ma vie, mais comme je dis encore une fois, l'affaire, elle est très très loin de terminer. Le combat continue pour la vérité jusqu'au bout.
J'ai dit tout à l'heure, donc 20 ans après, Omar Haddad continue à souhaiter, ce qu'il demande à son avocate actuelle, Sylvie Novakovic, d'obtenir cette révision. Alors, vous êtes de retour, maître?
Oui, tout à fait.
Alors, là, maintenant, voyons, sur quoi pourrait porter la révision? Donc, vous avez dit tout à l'heure, une nouvelle demande d'analyse ADN à propos d'ADN dont on sait déjà qu'ils ne sont pas des empreintes ADN d'Omar Haddad?
Oui, voilà. En fait, pour être clair avec les auditeurs, il faut savoir que lors de la première saisine de la commission de révision donc par Omar Haddad en 99, il y a eu d'abord une commission de révision qui s'est prononcée le 25 juin 2001. Oui. Et cette commission de révision a considéré qu'il y avait lieu à saisir la Cour de révision, parce que, premièrement, la commission effectivement a considéré qu'aucune identification de l'auteur des inscriptions était possible, alors que les experts désignés par le magistrat instructeur avaient formellement conclu que Mme Marshall avait tracé de sa main les deux messages. Et deuxièmement, la commission de révision avait indiqué que s'il apparaissait que les portes supportant les inscriptions ont pu être manipulées sans précaution et examinées par de nombreuses personnes, enquêteurs, experts, journalistes, la présence d'un ADN masculin différent de celui d'Omar Haddad constituait un élément nouveau nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
Parce que cette trace ADN était mélangée au sang de Mme Marshall.
Exactement,
donc ça ne pouvait pas être
une
pollution.
Mais mélangée au sang de la victime, ce qui est un détail extrêmement important.
D'accord. Alors, donc ils ont pris cette décision, mais la Cour de révision ne les a pas suivis.
Voilà, donc après le deuxième stade, parce qu'à l'époque il y avait deux stades effectivement de la révision, donc au deuxième stade au niveau de la Cour de révision, la Cour de révision a estimé qu'il n'y avait pas lieu à révision parce qu'il y aurait pu effectivement avoir de nombreuses personnes qui ont pu approcher les pièces à conviction. Mais c'est complètement idiot, je peux pas le dire, c'est idiot. Puisqu'il aurait suffi simplement à ce moment-là de procéder à d'autres analyses, de comparer effectivement au FNAG, au Fichier National des Empreintes Génétiques, les ADN retrouvés mélangés au sang de la victime, qui ne sont pas ceux de Omar Haddad.
Déjà pour en avoir le cœur
net. Ils ont
été
analysés par la commission de révision.
D'accord.
Donc de façon certaine et formelle, ce n'est pas l'ADN masculin de Omar Haddad.
Alors, maître, sans être trop technique, ça c'est à qui ce que vous venez de dire? Pourquoi est-ce que vous demandez de nouvelles recherches ADN?
Eh bien, tout simplement parce que les fameux ADN masculins retrouvés mélangés au sang de la victime n'ont toujours pas été identifiés.
D'accord, donc vous demandez qu'on les croise avec le fichier national des empreintes génétiques.
Exactement.
D'accord.
En toute logique, et je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été un obstacle, mais cette fois-ci, il n'y a plus d'obstacle possible grâce à cette nouvelle loi mise en vigueur au 1er octobre,
oui.
Et dès le 1er octobre, j'ai formulé cette demande d'acte, et le procureur de la République a 2 mois pour se prononcer. Et j'espère bien que vraiment, et je pense que toute la France entend cela, que M. le procureur va effectivement appliquer cette loi et va faire en sorte de faire cette comparaison au fichier, ça ne lui coûte rien, et bien sûr reprendre de la matière qui se trouve sur la porte et le chevron, sur les deux portes et le chevron, parce qu'on n'a pas assez de matière en l'état, effectivement, au laboratoire. Il nous en faut et il y en a dans les scellés.
Mais si la comparaison avec Dessy, vous me direz, on peut tout compliquer, mais si la comparaison ne donne rien, c'est-à-dire si ces ADN inconnus ne n'appartiennent pas à des gens fichés, c'est parce que dans le dossier, il y a des gens qui devraient être fichés,
Alors,
que vous demandez cette comparaison,
dossier,
en fait.
Hein. Ouais. Et j'ai demandé, dans cette demande d'acte, j'ai demandé l'audition de plusieurs personnes, donc que je ne peux pas citer aujourd'hui, de plusieurs personnes, de son audition, la comparaison avec ces personnes, de leur ADN, effectivement, à celui qui a été mélangé. Donc non seulement je demande une inscription, effectivement, au fichier national, mais également je demande l'inscription avec certains ADN de personnes que j'ai citées dans ma demande.
Voilà, donc ça, on peut en déduire, évidemment on comprend très bien votre discrétion, puis c'est le secret de l'instruction, et le secret de l'affaire, mais on comprend qu'il s'agit là de ce qu'on peut appeler des pistes non suivies. Qui aurait pu être suivi, quoi, puisque Jean-Marie Rouard faisait allusion tout à l'heure à des investigations financières, par exemple, qui n'ont pas été faites. Il n'y a pas que ça dans le dossier.
Exactement. Des investigations au niveau de l'ADN, qui est l'investigation la plus importante, également par rapport à des témoins, certains témoins qui ont approché la victime, qui n'ont jamais été effectivement recherchés, et pourtant, il y a suffisamment d'éléments, et c'est pour ça que je rejoins parfaitement M. Jean-Marie Rouard, il y a des éléments suffisants qui peuvent prouver l'innocence de M. Mouadad, j'en suis... Monsieur Amar Haddad est innocent.
Je vous remercie beaucoup, maître. Merci infiniment de nous avoir donné un éclairage sur vos démarches actuelles qui sont vraiment en pleine actualité. Une réaction, Jean-Marie Rouard, maintenant qu'on sait exactement ce que demande maître Novakovic.
Bien sûr, je trouve que ça va tout à fait dans le bon sens et j'espère qu'il y aura une conclusion positive. Mais il me semble que, même si, espérons, il faut l'espérer, mais si jamais on ne pouvait pas trouver, puisque là, ça fait tellement longtemps, ça fait quand même 20 ans, je pense qu'il faudrait essayer d'employer cette procédure dans l'intérêt de la loi, que le politique s'empare de cette affaire. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est justement l'émotion qui a suscité l'affaire Omar Haddad qui a permis... Je crois que c'était la part de Jacques Toubon qui a permis ce changement de la loi, qui a permis un appel aux assises. Donc il y a un appel maintenant aux assises. Pourquoi est-ce que celui qui a favorisé cette loi n'en bénéficierait pas ?
Alors on va faire une dernière pause dans cette émission et dans quelques instants on va retrouver maître Henri Leclerc. Maître Henri Leclerc, donc rappelons-le, qui était le défenseur de la partie civile à ce procès et qui à l'époque en tout cas n'avait exprimé aucun doute sur la culpabilité de Marada. On va lui demander dans un instant, 20 ans après, quel est son sentiment.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'affaire Omar Haddad, donc, à la une de l'émission aujourd'hui. On parlait il y a un instant avec maître Sylvie Novakovic, l'actuelle avocate d'Omar Haddad, qui va faire tout ce qu'elle peut, évidemment, pour obtenir un jour cette demande de révision. Jean-Marie Rouard, qui s'était engagé très fort et qui a mené véritablement devant l'opinion une sorte de contre-procès en disant que l'instruction avait été uniquement à charge et qu'on avait condamné un innocent. Et maître Henri Leclerc, on avait besoin d'entendre votre point de vue. Bonjour maître.
Bonjour.
Bonjour. Alors, à l'époque, donc, vous êtes président de la Ligue des droits de l'homme.
Non, je ne suis pas président de la Ligue des droits de l'homme. C'est une erreur absolue. Je ne serai élu président de la Ligue des droits de l'homme qu'un an plus tard.
D'accord. Alors, voilà une bonne rectification, parce qu'on a dit, la famille...
Je n'ai pas du tout été choisi comme président de la Ligue des droits de l'homme, ni en raison de mes responsabilités. J'ai été choisi comme avocat, et parce que j'étais de plus un ami du bâtonnier du Grand Rocher.
Voilà. Alors, maintenant, maître, je vais vous poser vraiment des questions ouvertes, parce qu'on va pas recréer les polémiques, etc. On n'est pas dans la polémique ni dans les procès, dans le procès. Mais vous, en conscience maintenant, quand on dit, finalement, il y a beaucoup de gens qui disent, moi je ne sais pas si Omar Haddad est coupable ou pas coupable, mais le doute ne lui a pas profité, il y a beaucoup de trous dans cette enquête. Est-ce que vous adhérez à cela ou est-ce que vous considérez que l'instruction a été très claire et prouve...
Je ne dis pas que l'instruction a été parfaite. Mais je dis que ma conviction à moi était totale à ce moment-là et que cette conviction n'a absolument pas changé. Ma conviction n'a pas changé. Je suis convaincu, personnellement, qu'Omar Haddad est coupable.
Donc pour vous,
vous allez me demander pourquoi.
Oui, je m'apprêtais à le faire. demande.
Je suis convaincu qu'il est coupable et j'ai été définitivement convaincu le jour où il a été procédé à une reconstitution. À laquelle Omar Haddad a refusé d'assister, mais auquel assistaient ses deux avocats de l'époque.
Oui.
Le problème était de savoir si, effectivement, elle avait pu fermer de l'intérieur Or, il a été établi que la porte était fermée par quelqu'un qui était de l'intérieur. Ses avocats, à l'époque, ont essayé de démontrer qu'il était possible de monter ce dispositif avec le chevron et la barre de l'extérieur. Mmh. Et ils ont échoué. Tout le monde l'a constaté. Il y avait beaucoup de gens présents. Et le juge d'instruction l'a mentionné dans son procès-verbal. Mmh. Il est donc évident que c'est elle qui a fait ces inscriptions, puisque personne n'a pu entrer dans la cave. Ça, c'est le premier point.
Oui.
Le deuxième, c'est la nature même des inscriptions. La nature des inscriptions sur la première porte. Il faudrait que l'assassin, qui donc n'a pas pu sortir, il faudrait donc que l'assassin et le meurtrier, plus exactement. Mmh. Il faudrait donc que le meurtrier ait pensé à se mettre à genoux devant la porte, puis à faire venir un petit tas de sang devant cette porte. Sur la deuxième porte, je rappelle que l'inscription sur la deuxième porte...
Il y a une deuxième inscription tronquée. Hein, ce qui est Omar Maté.
Omar Maté. Ouais. Alors, ouais. Cette deuxième inscription, vous avez une main, la main gauche, qui glisse le long de la porte, du milieu de la porte en bas. On voit quelqu'un qui tombe. Cette inscription, la première était faite par quelqu'un obligatoirement d'agenouillé. La deuxième est faite par quelqu'un de couché. Et cette inscription, c'est Omar Maté, ça s'arrête en bas de la porte, n'a pas pu aller plus loin. Mmh. Et cette inscription, il est complètement impossible qu'un meurtrier ait pensé à cette mise en scène complètement invraisemblable, de ça serait écrit par une femme en train de mourir. Mmh. Le troisième élément, c'est que, pourquoi accuser Omar ? J'indique que normalement, Omar ne travaille jamais le dimanche. Mmh. Or, justement, ce jour-là, il travaillait le dimanche. J'indique qu'Omar, quand il travaille...
Peut-être qu'on lui avait demandé de travailler le dimanche.
C'est Mme Pascal qui lui avait demandé.
La voisine.
Mais personne d'autre ne le savait. Deuxièmement, quand il travaille chez Mme Pascal, il mange chez Mme Pascal. Mmh. Or, ce jour-là, il a mangé chez Mme Pascal, mais il a été obligé de reconnaître que, justement, il s'était absenté à l'heure de midi et qu'il avait mangé aussi chez lui.
Oui.
Il y a donc là quand même des éléments qui sont des éléments, à mon avis, déterminants.
Oui.
Et moi, je ne suis pas du tout... Je suis très content qu'on fasse d'autres investigations. Mm-hmm. J'ai personnellement beaucoup soutenu le nouveau projet de loi sur la révision.
Mm-hmm.
Donc, je suis tout à fait d'accord. S'il y a des investigations, je ne crains rien en ce qui concerne ma conviction.
Mm-hmm.
Il y a eu plus de 40... versions différentes. Moi, je ne crains rien, je suis convaincu.
D'accord. Donc, écoutez, c'est ça que je voulais savoir. Y compris...
Oui, mais je suis toujours convaincu.
Y compris...
Je ne suis plus actuellement directement dans les affaires. Je n'ai pas été dans la procédure de révision de l'avocat de la famille de Mme Marchal, mais je suis toujours convaincu et ma conviction n'a pas changé à l'instant.
Et pour vous, il n'y a aucune comparaison à faire entre l'affaire Omar Haddad et l'affaire Roman, par exemple, où vous aviez dénoncé à l'époque une enquête à charge, vous aviez dit qu'on allait condamner un innocent et que le doute devait lui profiter au moins.
Mais bien sûr.
Et c'est à peu près ce que disent les gens qui...
Mais les gens se trompent, il n'y a pas de doute dans cette affaire. C'est ça mon avis.
Oui.
Mon avis, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est que les éléments à charge sont des éléments déterminants. C'est mon avis.
Oui. Dernière question, maître. Y compris sur cette affaire de date de la mort et de faute d'orthographe qui a été vraiment au centre d'une importante polémique, parce que c'est très important, parce que si elle est morte le lundi, Omar Haddad est innocent. Si elle est morte le dimanche, il peut être condamné.
Oui.
Oui, alors là-dessus, pour vous, il n'y a pas de doute.
Attendez, je vais vous dire. Non, les trois experts qui avaient mis cette date ont dit non pas que vous avez rectifié, mais deux, trois jours après, on dit au juge d'instruction, nous avons commis une erreur, une faute de frappe.
Oui.
Et une nouvelle expertise a été donnée sur ce sujet par la chambre criminelle de la Cour de cassation, devenant cour de révision.
Mmh.
Une nouvelle expertise, et les trois experts qui ont été désignés à ce moment ont dit que la mort était effectivement, vraisemblablement, du dimanche.
D'accord. Bah écoutez, je vous remercie infiniment et merci parce qu'on avait besoin évidemment de votre point de vue, hein, puisque nous on n'est pas là pour refaire le procès au Maradal.
Voilà, c'est mon point de vue, je n'interviens pas directement dans son affaire, mais vous me demandez mon avis, je n'ai pas changé.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, maître. Merci infiniment. Il reste, Jean-Marie Roy, quelques deux minutes avant la fin de cette émission. Alors, on ne va pas revenir point par point, je sais que vous n'êtes pas du tout d'accord, par exemple, avec ce qu'a dit
maître Leclerc. Non, mais il y a une question, je regrette d'ailleurs de ne pas le poser directement.
Non, mais on ne va pas faire les débats.
il y a quand même une question. Bon. C'est comment c'est... Je voudrais savoir, mais ça, c'est le romancier qui parle. Ah. Moi, j'ai eu énormément d'admiration pour Maître Henri Leclerc.
Oui, mais attendez, ne parlez plus de lui, il n'est pas là pour vous répondre. Donc, vous avez déjà écrit ce que vous pensiez de lui dans votre livre à l'époque, qui n'était pas très sympathique, donc là, je ne peux pas... voilà, ne parlons
plus,
pas de Maître Leclerc, il vient de donner...
On n'est plus dans la sympathie, dans l'antipathie.
Bon, il vient de donner son point de vue, et parce qu'on le lui a demandé, comme il nous a fait remarquer. Juste un mot, vous pensez que lors d'un procès éventuel en révision, il faudra revenir sur tous ces éléments, mais ça va être très difficile, parce que les pièces à conviction... on ne sait pas comment elles ont été conservées, et surtout, le corps a été incinéré.
Bien sûr. Mais au moins, on pourra chercher les autres pistes. La piste financière, la piste suisse. Ouais. Toutes ces pistes qui ont été complètement négligées. Et à ce moment-là, on se rendra compte de l'étendue de cette espèce de chose extraordinaire qu'il y avait. Il y avait vraiment 1000 chemins ouverts, et on a pris que le chemin le plus invraisemblable. Parce que, là encore, c'est une question de bon sens. Quel était l'intérêt d'Omar, qui vivait grâce aux subsides que lui donnait Madame Marshall, de tuer la personne, de tuer la poule aux œufs d'or ? C'était celle, elle le faisait vivre. Donc, il n'avait aucun intérêt. D'autant plus que, vous regardez, moi j'ai regardé son passé, parce que je me suis dit quand même, si c'est un homme qui a du sang sur les mains, jamais je ne le défendrai. Il n'y a rien, il n'y a pas une brutalité de la part de Omar Radard. Donc, c'est un homme, vraiment, il n'y avait aucune raison de s'intéresser à lui, il n'avait pas d'intérêt. Donc, je pense qu'on cherchera les autres pistes et qu'on se rendra compte à quel point il n'y a vraiment rien contre Omar Radard.
Je vous remercie beaucoup, Jean-Marie Rouard. Je rappelle le titre de votre livre à l'époque, Omar, la construction d'un coupable. Et comme on le disait au début de l'émission, dans votre tout dernier livre paru chez Gallimard, Ne pars pas avant moi, vous évoquez évidemment beaucoup de souvenirs. Et parmi ces souvenirs, il y a un portrait de Jacques Vergès. Merci infiniment. Et au passage, j'ajoute quand même que le livre de Vergès qu'il avait consacré à l'affaire, Omar m'a tué, est disponible en livre de poche. Tout le monde peut se le procurer. L'émission est maintenant terminée. On retrouve la vie flamande dans un instant.